appris à créer chaque mur, ses barricades et pétants. Est-il peur de la nature, la rage, car il a oublié qu'il en faisait partie. Des harmonies profondes, mais dans quel monde la colombe est partie. La rage d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage, d'avoir la rage depuis qu'on est mort. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de La Rage du Peuple. Aujourd'hui, une émission très chargée, dis-je. On a avec nous Samuel Pépin qui va faire l'actualité avec nous. Puis, par la suite, on va avoir Ludivine et Alex qui sont pour nous parler des brigades de solidarité avec Cuba. Et on va continuer l'émission plus tard avec un spécial sur la Colombie. On a deux personnes qui vont venir nous en parler de long à large avec une personne qui se trouve actuellement en Colombie à l'autre bout du fil. C'est tout ça à la rage du peuple.
La rage, parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe. La rage du peuple, l'ébullition, la rage, voilà la rage ou l'essence de la révolution. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage, on pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur parfois. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage, rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté.
Donc bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de La Rage du Peuple, émission d'actualité de sociopolitique animée par des anarchistes du collectif du 19 juillet. Aujourd'hui, on a beaucoup d'amis en studio. Il y a Sam avec nous qui voulait nous partager l'actualité que généralement moi et Jean-Martin assumons en début d'émission. Donc Sam, salut.
Donc, salut, oui, bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va très bien.
Oui, donc je vais te laisser y aller.
Oui, bien justement, cette semaine, en fait, à partir de la semaine passée, c'est passé vraiment gros des choses sur la scène politique et économique du monde.
Cette fameuse communauté internationale.
Ben oui, cette fameuse communauté internationale, justement, avec toutes ces instances dont je vais vous parler aujourd'hui. Bien, je voulais commencer par le G20. Parce que le G20, justement, il s'est commencé mardi passé et il s'est fini à peu près mercredi dans la journée. Ça a duré un peu moins de 24 heures. Et au G20, dans le fond, ça ressemblait les 20 pays les plus industrialisés du monde. Et ils allaient, en fait, ils discutaient de leurs intérêts économiques en cette grande crise, justement. C'était pour ça, justement, qu'ils se rassemblaient.
Et cette fois-ci seulement, c'était pour de vraies solutions.
Ah, de vraies solutions.
Avant ça, c'était pas c'était des demi-solutions.
Oui, justement, puis réinjection d'argent que je vais vous expliquer, qui me semble plus ou moins bidon quand que tu vois qu'il n'y a plus aucun prêteur qui peut prêter de l'argent, mais l'argent est encore là pour des prêts. Donc, je trouve ça un peu douteux, mais peu importe, ils ont quand même fait un G20. Et par rapport à l'aide financière, il y a environ 1 000 milliards en prêts aux économies en difficulté et au commerce. Donc, c'est quand même assez gros de réinjection de prêts pour pouvoir faire continuer l'économie pour des compagnies qui sont en difficulté. Et il y a également environ 5 000 milliards de mesures d'aide jusqu'en 2010. Donc, c'est de la réinjection qu'ils vont donner à des compagnies, mais c'est énorme comme argent.
Ils vont la chercher où, cet argent-là?
Mais justement,
comme ça serait dans les poches des travailleurs, je sais pas.
Ben, personnellement, je ne sais pas où ils vont la chercher parce que, comme je disais plus tôt, il n'y a plus d'argent à prêter. Je veux dire, le plus grand prêteur aux États-Unis, pour les États-Unis, c'est la Chine. Et la Chine connaît la récession économique, donc ils ont beaucoup moins d'argent. Donc, comment ils font pour prêter l'argent? Je ne sais pas, mais c'est tout dans leur intérêt de leur prêter l'argent parce que 83% de tout ce qu'ils font va aux États-Unis. Donc, c'est un gros cercle vicieux, je pense, et ça fait juste soutenir de façon illusoire, en fait, ce qui est déjà banqueroute dans le monde, donc le système capitaliste moderne qui va probablement s'effondrer bientôt, j'imagine. En tout cas,
on ne sait jamais.
Pour le bonheur de bien des gens.
Oui, je sais. Mais il y avait aussi des manifestants pour accueillir nos fameux dirigeants que nous aimons tous. D'ailleurs, semblerait-il qu'un de ceux-ci serait mort durant les manifestations? Je sais pas si on a confirmé la raison de sa mort.
Oui, mais dans les journaux, ils disaient que c'était une mort qui était naturelle.
Okay.
Donc, probablement qu'il y avait une crise cardiaque dans l'histoire ou quelque chose du genre. Donc, tu sais, personnellement, j'ai pas plus d'informations que ça à vous donner.
Okay.
C'est sûr que ça peut être douteux, mais tout de même, ça c'est possible aussi qu'il soit mort d'une mort naturelle durant une manifestation. Mais il y a environ... Il y a plusieurs personnes qui ont été interpellées, qui ont été arrêtées durant ces manifestations. Il y a vraiment gros des gens qui ont voulu soulever justement le fait que le G20, ben, c'était plus pour des élites et non pour les pays en difficulté, qui sont vraiment en difficulté. Donc, ça, il y a beaucoup d'arrestations qui ont été faites. Donc, il y a eu plusieurs blessés aussi qui ont été... plusieurs personnes qui ont été blessées par le cordon de sécurité de la police. Donc, tu sais, ça me fait penser un peu à ce qui s'est passé au sommet des Amériques à Québec. Dans le fond, gros cordon de police, gros des blessés du côté des manifestations, beaucoup de répression policière, en fait. Mais il y a aussi un point qui est très intéressant. Donc, un autre rassemblement mondial, autre que le G20, qui rassemble beaucoup de pays occidentaux, donc qui est l'OTAN, qui a eu lieu, en fait, vendredi et samedi. Et c'était entre autres pour parler de l'Afghanistan, parce qu'on sait que ça ne va pas très bien en Afghanistan pour l'OTAN, et ils voulaient justement redéfinir et justement rejustifier leur situation en Afghanistan, parce qu'il y a environ 60 000 militaires qui sont là, et c'est plus ou moins commode, plus ou moins de discussions par rapport justement aux missions entre les pays au sein même de l'Afghanistan. Donc, ils ont réactualisé toute leur plateforme en Afghanistan, ils ont dit qu'ils allaient continuer à aider l'Afghanistan sortir du troupe terroriste. Ils ont également fait des pressions sur le Pakistan quant au terrorisme qui siège au Pakistan, qui nuit justement à la situation en Afghanistan. Ils ont fait beaucoup de pression sur la Russie parce que la Russie commence à couper les liens avec l'OTAN depuis environ 2007. Et ils ont fait beaucoup de pression sur la Russie pour rapprocher l'OTAN de la Russie et pour justement critiquer la Russie dans le cas de la Géorgie. Donc, ce qui est arrivé en Géorgie justement il n'y a pas longtemps. Et ils ont à peine effleuré justement le cas du Grand Nord pour ce qui était des échanges économiques, etc. Donc,
d'ailleurs, je crois qu'il y avait des manifestants pour accueillir les responsables de l'OTAN.
Oui, il y avait beaucoup de manifestants.
Il y a eu plus de 400 interpellations, si je me souviens bien, des postes de police qui ont été saccagés, voire même incendiés.
Oui, ça a vraiment brassé à Strasbourg, là, surtout dans le quartier Port-du-Rhin.
Okay.
J'ai pris beaucoup de notes par rapport à ça. Il y a des black blocs, en fait, des anarchistes regroupés en sections qui sont organisées. C'est comme un peu de l'entraînement paramilitaire qu'ils suivent pour pouvoir faire leurs actions durant ces moments-là. Et justement, au quartier de Port-au-Rhin, samedi, pendant 1h30, le quartier de la police avait comme été... la police avait déserté ce quartier-là. Donc, ils ont saccagé une église, ils ont brûlé une pharmacie, ils ont brûlé un hôtel, puis ils ont brûlé un ancien poste de douane.
Ouais, sur le pont de l'Europe, je pense.
Oui, bien, tout dans ce quartier-là,
okay,
en fait.
Ouais.
Puis, ils ont assiégé, justement, aussi la voie ferrée du quartier et ils sont opposés à la police. La police a fui, justement, cet affrontement. La police était déserte, a déserté ce quartier-là.
Moi qui pensais qu'ils seraient préparés, ça me déçoit un peu.
Mais la préparation de la police était environ de 9 000 policiers, 1 500 militants, puis beaucoup de pompiers, mais il n'y avait pas l'air à être efficace.
Pourtant, il y avait mis beaucoup de clôtures pour restreindre l'accès à toutes sortes de personnes. Mais bon.
Par rapport à la police, ils ont justement éventré un commissariat justement durant cette manifestation-là. Donc,
félicitations aux manifestants.
Oui, ben, si c'est pour des bonnes causes. Donc, est-ce que vous voulez aller en publicité ou on continue?
Oui, ben, on pourrait faire une pause musicale, puis on va pouvoir continuer en actualité tout de suite après. Tout ça à la rage du peuple. On va aller écouter une chanson de King Tubby, qui est, je dirais quand même, le roi du dub jamaïcain, avec une réinterprétation de Take Five. De retour en onde pour... Pardonnez-moi. Donc, on est de retour en onde pour continuer l'actualité avec Samuel qui est en studio avec nous, puis qu'il y a d'autres nouvelles pour nous.
Mais je voulais finir avec le temps, justement. Je pense qu'Alex voulait nous dire quelque chose par rapport à tout ça.
Oui, ben, je voulais préciser, par exemple, que suite... le samedi, oui, comme Samuel a dit, il y a eu une belle offensive des manifestants qui ont réussi à avoir un... disons, une ouverture dans un quartier qui était déserté par la police, puis qui ont pu exprimer leur rage. Mais il faut se rappeler aussi que le samedi soir, durant la nuit, les manifestants s'étaient regroupés autour d'un camp, qu'on appelle le camp du contre-sommet. Et puis, dans les petites heures de la nuit, les policiers ont chargé l'aide d'armes très sophistiquées comme des bombes assourdissantes puis des gaz lacrymogènes. Puis ils ont même incendié les barricades du camp. Donc, ça a semé énormément la panique dans les camps des manifestants. Puis, exactement. Puis le lendemain, bon, il y a eu d'autres manifestations. Mais je tenais quand même à préciser que la police... ça a été une victoire le samedi des manifestants, mais la police aurait vraiment réprimé dans la violence et dans la terreur durant la nuit.
Comme à son habitude.
Et si vous voulez, on peut continuer. Mais avais-tu quelque chose à dire par rapport au sommet de l'OTAN, Guillaume?
Non, pas vraiment.
Moi, j'aimerais ça continuer avec l'Afghanistan. On parlait de l'Afghanistan tantôt, justement, par rapport à l'OTAN qui était dans la région, avec 60 000 militaires, et qui avait justement mis Amir Karzai justement au pouvoir en 2002-2003. Et Amir Karzai, c'est même Amir Karzai qui avait été mis par les Américains, qui critique les Américains depuis sa mise au pouvoir, a donné le feu vert à une loi qui légalisait le viol des femmes par leur mari et qui interdisait les femmes de sortir de leur maison s'il n'y avait pas eu le consentement du mari par précédemment. Par rapport à ce que j'avance, par rapport au viol des femmes, en fait, les femmes n'ont pas le droit de refuser tout rapport sexuel de leur mari et les maris. Donc, si la femme ne veut pas, c'est considéré comme un viol s'il fait. Donc, c'est pour ça qu'on c'est une loi qui dit qu'il est pour le viol de la femme. Toutefois, la loi s'applique juste aux chiites, malheureusement pour les sunnites. Hein? Oh. Mais les sunnites vont avoir une loi justement similaire à celle-là. Et c'est trois... Bon, vas-y donc, Alex.
Et les Kurdes, mais...
Non, mais les Kurdes en Afghanistan, il n'y en a pas beaucoup, par contre. Mais c'est pas grave. Mais par rapport aux sunnites qui sont majoritaires dans le pays, qui sont, je pense, le trois quarts de la population, donc vont avoir cette loi-là. Et par rapport aux chiites, par contre, c'est juste trois chiites qui ont discuté de la loi pour la faire appliquer. Ce n'est même pas des députés ou du monde politique. C'est trois personnes qui se sont rassemblées. Ils ont dit que ce serait une loi intéressante. On va la faire passer à l'Assemblée. Puis ça, c'est fait.
Ah, c'est une Assemblée générale.
Mais en tout cas, bon, moi, je trouve que c'est une régression. Justement, dans l'article que je laisse, une régression par rapport aux lois Afghanistan.
Il ne faut pas non plus se tromper sur l'objectif des Canadiens en Afghanistan. Ce n'est pas nécessairement de construire des écoles puis de sauver les jeunes filles, mais plutôt de... écouler des balles, des bombes, puis avoir un nouveau rôle sur l'échiquier mondial, peut-être.
Malheureusement, souvent, c'est des objectifs qui sont cachés, mais qui sont tout à fait réels. Justement, le fait d'éliminer nos munitions, c'est très bon pour en acheter d'autres et c'est très bon pour l'économie.
Ouais.
Donc, je voulais passer vite sur la Grèce puis la France, parce qu'il y a beaucoup de manifestations en Grèce. En fait, dans le Devoir du 3 avril 2009, il disait qu'il y avait des grèves, justement, qui ont duré pendant plus de 24 heures. Des grèves nationales, en fait, qui ont paralysé tout le pays. Et il y a beaucoup d'occupations un peu partout en Grèce, surtout dans des universités. Et ça, c'est dû surtout à la crise économique, ou surtout aussi au fait que 95%... En fait, la dette de la Grèce équivaut à 95% du PIB national, ce qui est très élevé.
Sympathique.
Et donc, c'est suite, en plus, à une augmentation de toute leur économie de 4% en fait pendant environ 2 ans à partir de 2007. Donc, c'est un revirement de situation. Mm-hmm. Et pour ce qui est de la France, en fait, il y a eu une manifestation le 29 janvier environ de 2,5 millions de personnes et le 19 mars de 3 millions de personnes suite aussi justement à la crise économique mondiale.
Est-ce que tu as d'autres nouvelles à nous partager, Sam?
C'est à peu près tout pour ce qui est des nouvelles internationales et nationales.
Génial. Puis moi, je vais en ajouter quelques-unes, en fait, deux principales. Il y a un article qui est paru récemment dans la presse où on parle des émeutes de Montréal-Nord qui ont eu lieu en août dernier. Semblerait-il que, selon des spécialistes dans la lutte aux gangs de rue, que l'escouade Eclipse qui devait surveiller les gangs de rue, si on veut, aurait contribué fortement au climat d'insécurité du quartier. La brigade pourrait avoir été à l'origine d'une exacerbation d'un sentiment de harcèlement de la part des forces de l'ordre, écrivent les criminologues Jean-Paul Brodeur et Valérie Sagan, et ainsi que Frédéric Octeau et Massimiliano Mulone, dans un rapport qui compare divers épisodes de violence urbaine survenus au Québec, en France, en Angleterre et aux États-Unis. Le rapport a d'ailleurs été réalisé pour le SPVM. J'espère qu'ils vont comprendre la leçon une fois de plus. Bref, c'est pas à coup de bouteille, ça va être à coup de rapport de spécialiste. Mais bon, en entrevue, Jean-Paul Brodeur de l'Université de Montréal et sa collègue Valérie Sagan du Centre international de prévention de la criminalité refusent de condamner Eclipse néanmoins, puisque les criminologues n'ont pas effectué d'études de terrain avec l'escouade. On peut se prononcer sur Eclipse, mais on a montré que ce genre de brigade qui agit dans l'urgence, très spécialisée, qui vise à augmenter le nombre d'arrestations, ça aggrave en général les tensions, dit Valérie. Donc, petite nouvelle pour nous rappeler que quand il y a une insécurité économique dans un quartier, puis que de la répression harcelante qu'on double d'un une espèce de racisme latent chez nos policiers, eh bien, ça pète de temps en temps, puis il faut croire que ça va se répéter encore et encore, puisque en France, manifestement, c'est pas survenu qu'une seule fois. Pourquoi pas au Québec? Une autre nouvelle, cette fois-ci, encore à Montréal, la nuit dernière, il y avait un groupe, plusieurs étudiants qui ont décidé d'occuper leurs locaux pour appuyer la grève des professeurs. Je tiens à dire que c'est une des rares grèves qui aurait réussi à mobiliser même des gens en gestion. Donc, on peut dire que ça fait quand même une certaine unanimité. Et puis, les offres patronales ont été refusées lundi dernier, ce qui a, dans le fond, déclenché, si on veut, la volonté des étudiants d'occuper leurs locaux. Vers 4 heures du matin, ils sont fait jeter dehors par les policiers qui, semblerait-il, étaient en surnombre. Bref, on s'habitue de plus en plus à en voir partout, mais bon. Et aux dernières nouvelles, il semble qu'ils soient toujours en prison, donc une détention assez longue pour une simple occupation de bureau. Bref, ça va me décourager à réoccuper les locaux de mon institution universitaire. Bref, je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose sur le sujet. Non, ça vous va? Dans ce cas-là, on va aller faire une pause musicale et commerciale, puis tout de suite après, il y a Alex et Ludivine qui vont nous parler des brigades de solidarité avec Cuba. Donc, on va aller écouter une chanson de Rage Against the Machine. Pourquoi pas?
We all got blue, red, and red, 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 red Ce mardi, vous avez beaucoup à gagner au 8 sur 8. Procurez-vous la combinaison gagnante dès aujourd'hui. Le 8 sur 8 est une façon de découvrir votre portrait de joueur à l'aide de questions et de conseils. En voici un. L'envie de jouer se présente? Il vaut mieux prendre le temps de se demander si le moment est bien choisi et si le budget le permet. Si l'on est incapable de passer son tour, il est temps de se questionner sur ses comportements en jeu. Procurez-vous le dépliant 8 sur 8, disponible au point de vente Loto-Québec ou à 8sur8.com. Une initiative de la Fondation Mise sur toi.
Monsieur Paul Milliard, président d'honneur de la campagne du pain partagé de Caritas Estrie.
Vendredi, c'est la campagne du pain partagé. Votre don aidera des projets de lutte à la pauvreté à la grandeur de l'Estrie.
Donnez généreusement à la campagne du pain partagé de Caritas Estrie.
Si vous avez des commentaires ou suggestions concernant notre programmation, contactez-nous par téléphone 819-566-2787. Ou par courriel à l'adresse commentaires@cflx.qc.ca.
CFLX 95,5 FM. La radio communautaire de l'Est.
yo soy fuerte. Sobre la historia dispara cuando todo se está clara. Se despiertan para verte aquí. Se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Siempre comandante.
De Zebda qui se nomme
Commandante Che Guevara.
Oui, et puis tout ça pour mettre en contexte les brigades de solidarité avec Cuba que va nous présenter Ludivine et Alex. Salut, vous allez bien?
Oui, ça va très bien.
Oui, ça va super bien, merci.
Parfait. Donc, en quoi ça consiste ces brigades de solidarité cubaines ou québécoises?
En fait, c'est des brigades de solidarité entre le Québec et Cuba. Bon, il existe différentes brigades de solidarité à travers le monde. Nous, on est là aujourd'hui pour parler celle entre le Québec et Cuba. En fait, ça fait depuis 91 qu'il y a un contingent de brigadistes québécois et québécoises qui se rendent chaque année à Cuba. Depuis 4 ans, il y a une thématique en fait qui se joint avec cette brigade-là, avec ce voyage-là. En 2006, c'était sur le thème de l'éducation. En 2007, c'était sur le thème du travail social et de la santé. L'année dernière, c'était sur la culture. Et cette année, la brigade de solidarité porte sur le thème du développement durable. Donc, c'est généralement des personnes qui ont comme pour intérêt ces thèmes-là, qui s'en vont à Cuba pour une durée de 15 jours à 3 semaines. Cette année, ça se déroulera en fait du 6 au 20 juin. Il va y avoir en fait deux personnes qui coordonnent la brigade. dont moi et une autre personne qui se situe à Québec. On accompagnera le groupe et il va y avoir à peu près un minimum de 14 personnes, 14 participants, participantes. Donc en fait, on est en période de recrutement terminal. On est à date 12 participantes, donc d'un peu partout du Québec. Et c'est sûr que la brigade s'adresse à des adultes de tout âge. Il ne faut pas forcément qu'on ait comme une spécialité dans l'agriculture ou dans l'écologie pour participer. La mission en fait de la brigade, là, c'est vraiment de développer des liens de solidarité avec le peuple cubain, puis par la participation à des travaux volontaires, tout en intégrant aussi en s'intégrant à des initiatives locales. Ça aussi pour mission en fait de développer une meilleure connaissance des réalisations cubaines, de la réalité cubaine, puis un petit peu de favoriser l'éveil d'une conscience solidaire. Il faut savoir en fait que les brigades de solidarité là sont organisées en fait par deux organismes, donc un évidemment au Québec et un à Cuba. Pour l'organisme qui se situe au Québec, ça s'appelle la table de concertation de solidarité Québec-Cuba. Donc il y a à peu près 20 membres dans cette table de concertation là. On parle d'associations telles que l'association québécoise des amis de Cuba, la caravane d'amitié des Québec-Cuba. Il y a aussi des forums de discussion, là, comme le forum des femmes de Montréal, qui parle beaucoup de la désinformation à Cuba, etc. Puis il y a même le parti Néo-Rino, qui est membre de la table de concertation, et le parti communiste du Québec, puis bien d'autres. C'est aussi organisé donc, par l'ICAP, qui est à Cuba, qui veut dire en fait l'Institut cubain d'amitié avec les peuples. Puis ça a été créé en 1960 grâce à l'enthousiasme et à la solidarité qui est résulté du triomphe de la révolution cubaine à travers le monde. Puis là, cette institution-là, dès sa constitution, elle avait vraiment comme but principal de promouvoir, en fait, par tous les moyens possibles, les relations d'amitié envers Cuba. Puis de soutenir également le droit au peuple cubain à l'autodétermination. Puis c'était aussi un moyen, en fait, de développer une connaissance sur la politique, sur le côté politique, social et culturel de Cuba. Cette année au programme en fait c'est le thème du développement durable. On s'en va pendant les 14 jours. Ça se situe en fait entre La Havane et Santa Clara en passant, qui est un lieu très historique à Cuba au niveau de la révolution cubaine. Les matinées sont vraiment consacrées à des travaux volontaires, donc évidemment du travail au champ, par exemple dans des champs de canne à sucre. Il y a des visites aussi dans des usines de panneaux solaires, des conférences sur le thème de l'agriculture à Cuba. Il faut savoir que l'agriculture à Cuba est quand même unique en son genre. Il n'y a aucun pesticide qui passe à Cuba, no pasaran pour les pesticides. Il y a une rencontre aussi bien sûr avec des syndicats agricoles, avec des travailleurs puis des travailleuses. Il y a aussi des visites de parcs écologiques. Et on part aussi dans un contexte de la 50e année de la révolution cubaine. Donc évidemment, il y aura des conférences sur ce thème-là. Puis un volet un petit peu plus culturel, donc des cours de danse le soir, un côté plus social avec des rencontres de membres des comités de défense de la révolution, donc dans différents quartiers de La Havane ou à Caimito. En tout cas, pour en savoir plus, moi je peux envoyer le programme là, à des personnes qui sont intéressées.
Puisque vous êtes en recrutement.
Oui, exactement. Donc je peux donner même de suite mes coordonnées. Mon adresse courriel, c'est grelottineyep@commercialhotmail.com. Donc grelottine, grelottineyep. Donc voilà. On a Alex aussi qui est là et qui va donc participer à la brigade cette année.
Oui, puis je crois qu'Alex va aller nous partager, si on veut, ses appréhensions.
Oui, tout à fait. Oui. Je pense que c'est important de dire j'ai 5 belles raisons qui me poussent à me participer au projet. Premièrement, comme l'a dit ma chère amie Lusivine, c'est 50 ans de la Révolution cubaine. Donc, c'est un grand événement historique qui se passe à Cuba en ce moment, qui se passe durant toute l'année. Et puis, pour moi, c'est réellement important de, premièrement, davantage pour en connaître davantage sur le 50 ans de la Révolution, mais aussi pour pouvoir aussi participer à tous les ateliers, tous les événements autour de l'événement. Je pense que Donc, je m'en voudrais beaucoup de pas avoir la chance d'y aller. En second lieu, je pense qu'il y a aussi l'intérêt de pouvoir discuter avec les Cubains de leur culture, de comment ils ont vécu ça à travers toutes ces années-là, à travers autant les grands-parents qui ont vécu la Révolution, autant les jeunes qui s'éveillent avec un monde qui l'avenir est assez, non pas troublant, mais
à bâtir,
exactement, oui. Autant savoir si Raoul Castro a aussi les mêmes un peu intérêts révolutionnaires que son frère. Ça doit être. J'ai vraiment hâte de discuter avec les Cubains. Surtout que l'espagnol est tellement une belle langue aussi à parler. C'est tellement
à conserver
un beau véhicule de dialogue. C'est sûr que pour les gens qui sont à l'intérieur de la brigade, en ce moment, c'est pas tout le monde qui maîtrise la langue espagnole. Moi, je suis peut-être la personne qui est la plus avancée au niveau de la langue. Fait que moi, je vais offrir jusqu'à temps de départ au mois de juin, jusqu'au 6 juin, à chaque semaine, des cours d'espagnol. Donc, pour les gens qui nous écoutent, puis que ça pourrait être un des obstacles à leur voyage, ben, sachez que ça va être des choses qui vont se faire tout à fait gratuitement. Donc, n'hésitez pas.
Il faut savoir qu'il va y avoir quand même une interprète de l'ICAP qui nous suit quand même pendant la brigade. Donc, qui fait la traduction français-espagnol. Espagnol-français. Donc, pour les personnes même qui ne parlent pas forcément espagnol, c'est quand même ouvert. Là.
Puis, moi, je me demandais, mis à part les cours que tu offres gracieusement, Alex, est-ce qu'il y a si on veut, des ateliers préparation en vue des brigades?
En tant que tel, on fait des rencontres d'information, donc pour rencontrer les personnes qui sont intéressées à participer. Mais non, il n'y a pas vraiment de préparation. Là, c'est comme c'est libre à tout un chacun. C'est sûr que moi, je réfère les personnes à différents sites comme Oxfam Québec. Là, il y a un document très intéressant sur les droits à Cuba qui s'appelle Ni enfer ni paradis. Donc, tu sais, je réfère comme je donne un petit peu d'informations, mais tu sais, c'est à tout un chacun d'aller chercher, c'est ça, de l'information là, avant de partir.
Puis tu disais qu'il y avait jusqu'ici une dizaine de participants?
Oui, il y a une douzaine de personnes en fait qui sont déjà inscrites, donc qui sont sûres de partir. Mais c'est ça, c'est ouvert jusqu'à à peu près 20 personnes.
OK, c'est tous des Sherbrookeois, Sherbrookeuses?
Non, à date, on a beaucoup de gens de Montréal, de Granby, puis même de deux personnes d'Ottawa. Et Sherbrooke, il y a quatre participants. Okay. Participantes.
Donc, peu importe la région, c'est ouvert à tous.
Mm-hmm. Est-ce qu'on peut rappeler ton courriel?
Oui, grelottineyep@commercialhotmail.com. Grelottine, GRELOTINEYEP. Donc, vous pouvez me contacter pour avoir la totalité du programme et puis les informations.
Ouais.
Merci beaucoup, Ludivine. On s'en va écouter une chanson?
Oui, on va aller faire une pause musicale.
Avec Buena Vista Social Club.
Chispa se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos.
crois que, Alex, tu voulais nous rappeler quelques informations?
Oui, je voulais juste rappeler que pour ce qui est de la brigade de solidarité avec Cuba, ça fait drôle à dire un peu, mais c'est pas comme au Clubman, mais c'est un tout inclus pour les gens qui seraient intéressés. C'est 1 500 $ en tout, qui se comprend le billet d'avion aller-retour, qui comprend l'hébergement là-bas, les conférences et même la nourriture à un certain point. Mais le fun là-dedans, c'est que la brigade s'est engagée, en tout cas la gang de Sherbrooke s'est engagée à faire des ateliers d'éducation populaire au retour. Donc pour tout ce qu'on va avoir appris là-bas, l'intérêt, ça va être de repartager nos savoirs avec
la communauté sherbrookoise.
Exactement, les universités, le cégep, surtout les écoles secondaires, le centre-ville, bref, vous allez entendre parler de nous autres, même si vous n'êtes pas à Cuba. Donc, on invite tous celles qui seraient intéressées ou qui voudraient avoir un peu plus d'informations à contacter Ludivine au email qu'elle vous a donné auparavant. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et bonne fin d'émission de radio.
Au marasme, j'en ai marre. Au diable, dehors, je sens demain ce sandinisté. Assez de la céréale masse qui mastique son steak en deux massacres. La masse salariale, tout en arial 12 que les bourreaux cravatent ta poche et enclaviérisent d'ordinaire sans plomb, pudding chômeur au pablum sans nom. Qui sent la tonne et ne s'étonne plus de rien, anatomiquement bombardé, hiroshimaché, showbiz-tourisé, brainwashé, humanipulé. Je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, Je m'acharnerai, je m'arnacherai, je m'anarchiserai, je déracinerai mon arbre généalogique, décimalmènerai mon code génétique, je me dénaturerai, me dénarciserai, je m'enragenirai et m'étonnerai de toute ma collectricité. Assez de cette masse qui m'asserre, sa langue s'empare dans sa misère. Il faudra m'asserrer. Il faudra nous serrer et nous serons ronds comme un poulet, comme une boulette de vie hachée, indigérable, indirigeable, indigestionnable, indigénétiquement modifiable, de culture biologiquement indigent, indigène, invincible. Plus jamais la cible, l'évincer, les trentérés, les quarantelés, devenons de cinquantifiables 68 heures millénaires. Millions-nous, milliards durcissons-nous, arrêtons de nous étioler et devenons des étoiles. Commettons-nous, commémérons l'appel du bout de nos perrons, mettons fin aux perro-questionnements existentiels. Le ciel existe et a les blues. Car on assèche les mers pendant que d'autres merdes sèchent, comme le maire de Sherbrooke ou le maire d'Oka. Je m'acquitterai de cette ma somnambule dosée de pilules qui s'empilent, s'épilent et s'effacent dans l'empire des piles ou faces. Nous sommes nés face contre terre. Arrêtons de nous taire, déterrons nos terreurs, tenons notre bout, aboutissons des liens, des lianes qui nous sortiront de cette boue, labourons le changement, hors de nos moules, Jean Moulin, posons-nous, retroussons nos manches de la manne, chantons le Nouganda, le New York, le New Delhi, le Newfoundland, fondons-nous un lendemain de circonstances, soyons de mèches plutôt que de s'émécher. Allumons à nouveau les lumières. Soyons des dynamos, des dominos, des dynamiques, des dynamites. Explosons le plausible. Applaudisséminons l'encouragement. Fini la mascarade des rats, camarde masquée sous une mare de mascara. Allez, viens, camarades, construisons nos embrassades. Amassons-nous l'épaule, relaxons nos afflictions par des américanements. Sourions, sourions, nous sommes fils et filles d'Orion, filles et fils de rien, d'un bout à l'autre des méridiens. Terriens, terriennes, atterrés par la haine, altérés par l'ego, tout altère mondiaux. Tout le même assemblage de molécules, tubercules d'Hercule qui reculera devant rien. Mastodontes indomptables, attablons-nous. C'est l'heure, c'est l'heure d'être cette masse qui enfoncera le clou de ce spectacle.
C'était Franck Poul qui était avec nous, qui est venu nous rejoindre en studio pour
encore une
nous,
fois.
Encore une fois pour nous réciter ce magnifique slam. Je te remercie beaucoup, Franck. J'ai adoré.
Fait plaisir.
Puis pourquoi pas nous parler peut-être un peu plus du slam puisque tu es ici avec nous.
Ben voilà, le slam, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement, au final, c'est un mouvement social, je veux dire, de poésie à la base qui refusait dans le fond le que l'élite dicte qu'est-ce que la poésie, qu'est-ce que la littérature, et puis ces gens-là se sont rassemblés, ont décidé de faire des assemblées populaires de poésie, de se rassembler autour de ça, de virer la poésie vers le public, c'est-à-dire non pas tout pour le public comme Star Epidémie, mais plutôt de dire non, ça appartient pas à des gens dans une tour d'ivoire, la poésie, ça appartient à la population, fait que c'est de se réapproprier ça, et puis que le public il puisse s'exprimer sur cette chose-là, dans le fond, que la poésie. Fait que c'est ça le mouvement de slam, ça se passe partout.
D'ailleurs, semblerait-il qu'à Sherbrooke, c'est très populaire et les soirées slam, ces temps-ci, sont très, très bondées.
Tout à fait. En fait, vu qu'on est, il y a sûrement des auditeurs qui vous écoutent et puis qui connaissent c'est quoi un peu les mouvements sociaux, mais je veux dire, il y a une histoire qui nous précède depuis une vingtaine d'années, le mouvement SAM, fait que c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, ça émerge. Puis à Sherbrooke, ben, on est juste le résultat de ces gens-là qui ont travaillé à tout ça. Puis,
mais quel résultat?
Ah oui, c'est trippant. C'est trippant. Ah ouais. Fait que c'est au tremplin, je vais plugger, là, c'est au tremplin, ben oui, ben dans oui. Un organisme communautaire sans but lucratif, parce qu'on s'en